C'est Jean qui a fait ses devoirs. Jean a lu Jean, bravo. Jean 5, très bien. Alors, j'espère que vous l'avez lu, parce qu'on ne va pas le lire ce matin. Parfois, on a le temps de le lire en entier. Là, on va le survoler, d'accord? Et si vous ne l'avez pas lu, ben, vous pourrez le lire cet après-midi pour vous remémorer ce qu'il y a dedans. Je vous fais un petit résumé. Ah non, 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 j'en vois qui essayent de le lire maintenant. Il n'y aura pas d'interrogation surprise, vous inquiétez pas. Je fais un petit résumé. Lors d'une fête juive, Jésus se rend à Jérusalem et s'arrête à un point d'eau. Et ce point d'eau s'appelle la piscine de Bethesda, qui signifie maison de miséricorde, maison de grâce. Là, il trouve couché un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Au milieu de ces malades, Jésus en choisit un et le guérit. Comme c'était un jour de sabbat, et il était interdit de travailler ou de faire quelque chose, les Juifs étaient mécontents et certains voulaient le faire mourir. Puis, nous arrivons au verset 21 du chapitre, qui me semble être un des versets centraux, un des versets clés de ce passage. Et ce verset dit « Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils de l'homme, le Fils, pardon, donne la vie à qui il veut. » Jésus ensuite explique qu'il est le chemin vers la vie, vers le salut, loin de la condamnation. Et il conclut en disant deux choses. La loi ne mène pas directement à la vie, mais elle a été donnée pour mener à Jésus. Et au verset 40, il leur dit à une partie du peuple, « Et vous, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Du coup, une partie du peuple demeure sous le jugement de Dieu. Voilà pour le résumé. On va prier et puis on va rentrer dans le texte. Père, merci pour ta parole. Merci parce que c'est le plus grand trésor que tu nous aies laissé. Parce que ta parole est vivante. Parce qu'elle nous parle de toi, de Jésus et du Saint-Esprit. Et Père, nous te demandons que ce matin, elle continue son œuvre en nous et qu'elle nous transforme, qu'elle nous rende encore plus semblables à celui que l'on aime, Jésus. Amen. Alors, pourquoi cette histoire? Pourquoi Jean partage-t-il cette histoire à cette piscine? Peut-être c'est pour encourager le groupe d'hommes de l'église de Marguerite d'être un peu plus nombreux quand il y a piscine. Mais sinon, quel est le rapport avec la suite de l'histoire? Eh bien, en fait, comme dans les chapitres précédents, Jean va utiliser une histoire, une image, pour illustrer ce qu'il va dire dans la suite du passage. C'est un peu comme un tableau représentatif de ce qu'il va dire par la suite. Jésus entre à Jérusalem et trouve un peuple dans un état désolant. Vous savez, il passe par une porte, il y avait plusieurs portes, et là, qu'est-ce qu'il voit à Bethesda? Des malades couchés, aveugles, boiteux, paralytiques, qui attendaient à côté de la source, à Bethesda, dans la maison de la grâce. Jean nous décrit ici plus que juste le peuple hébreu. Il nous décrit l'état de l'humanité après la chute. La chute, c'est quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden. L'humanité Elle est malade à cause du péché. Elle est aveugle car elle ne voit pas le monde spirituel. Elle ne voit pas Dieu. Elle ne voit pas le Fils. Elle boite car elle a l'impression d'avancer dans le bon sens sans se rendre compte qu'elle marche vers la mort. Elle est paralysée parce qu'elle est engluée dans le péché. Elle sert constamment les desseins du diable, étant son esclave. Voilà comment Jean commence le chapitre. Et frères et sœurs, nous étions là, chacun de nous, nous étions là. Loin de Jésus, les personnes sont malades. Elles sont aveugles, elles boitent dans leur vie et elles sont même paralysées dans le péché. Il suffit d'allumer la télévision pour observer l'état moral du monde dans lequel nous vivons. Difficile de penser autre chose. Et alors que ces personnes se trouvaient à proximité d'un moyen de guérison sûr, pourquoi demeuraient-elles malades ou infirmes sans accéder à la guérison? Eh bien parce que la guérison que Dieu offrait exigeait de la force. Il fallait de la force pour pouvoir aller jusque dans l'eau au bon moment. Or, ce qui caractérise justement ces malades, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas de force. Ils sont paralysés. Ils sont boiteux. Ils sont aveugles. Si nous comparons leur état avec celui de tout homme sous la loi, le moyen de guérison de Bethesda illustre cette loi. Par elle, Dieu demandait à l'homme de faire. En Luc 10, Jésus dira « Fais cela et tu vivras » dans le sens « Accomplis la loi et tu vivras ». Mais nul n'a pu l'accomplir. Pourquoi ? Parce que le péché a ôté à tout homme la capacité d'être guéri et d'accéder à la vie, malgré tous ses efforts et tous ses bons désirs. C'était inévitablement la perdition éternelle, ce qu'on appelle communément l'enfer, qui attendait l'humanité. Pour l'en sortir, il fallait une puissance en dehors qui vienne donner cette force. Malheureusement, dans le monde, comme à côté de cette piscine, personne n'est là pour aider. Personne n'en a la force. Même Nicodème, si vous vous rappelez, on revient trois chapitres en arrière, chapitre 2, ce docteur de la loi que nous avons rencontré, pardon, chapitre 3, ne pouvait accéder à la vie éternelle. Lui aussi, il lui fallait regarder à Jésus et accepter son œuvre à la croix. Mais heureusement, il y a des bons mets dans la Bible, heureusement, Jésus passe par là. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Dans Romains 5, versets 6 à 8, il est dit « Car lorsque nous étions encore sans force, d'accord, comme ces malades au bord de la piscine, sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des gens malades, pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Jésus est venu au bord de cette piscine. Il est venu dans le monde pour guérir et sauver des pécheurs. J'espère que ça vous réjouit. Et quand on regarde encore de manière plus précise à cette image, eh bien, on voit qu'elle montre aussi quelque chose d'autre. Elle montre que nous pouvons être dans la maison de la grâce, la maison de la miséricorde de Dieu. Nous pouvons, les amis, fréquenter l'Église. Et nous pouvons être assis à côté. On peut être dans la maison, mais être assis à côté de la source. À côté de la source qui donne la guérison et la vie. Mais sans jamais vivre cette guérison. Jésus a choisi un homme qui est resté 38 ans dans cette maison. 38 ans. Parfois, nous venons dans une église tout en restant quelque part au bord de la piscine, au bord de la source. Nous observons ce qu'il se passe. Nous trouvons ça pas trop mal. Mais nous n'allons pas vers la source. Nous n'allons pas vers Jésus. Nous pouvons alors être au bénéfice de ce que Jésus fait dans l'Église et nous profitons de la joie qu'il y a dans l'Église, de la paix, de l'entraide, de l'amour, etc. Mais on reste malade, aveugle, boiteux ou paralysé. Et Jean nous alerte dès le début de ce chapitre. Il nous alerte, il nous dit, être spectateur, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Si la vie de Jésus ne vient pas te toucher et te métamorphoser, eh bien tu demeures sous le jugement de Dieu. Et c'est le reste, la suite de cette histoire. Et les amis, c'est Jésus lui-même qui va te juger. C'est Jésus lui-même qui va te juger. Parfois, nous pensons à tort que c'est à cause du diable que certaines églises ferment, mais je crois que le diable n'a pas ce pouvoir-là. C'est Jésus qui décide d'ouvrir ou de fermer une église. En Matthieu 16, il nous est dit, Jésus qui parle et dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le diable ne peut pas se prévaloir contre l'Église. Le diable ne peut rien contre la construction de l'Église. C'est Jésus qui bâtit et qui juge. Dans la parabole de l'ivraie et du bon grain, Jésus dit: laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Et au verset 40, c'est en Matthieu 13 qu'on a cette parabole, au verset 40, il est dit, or, comme on arrache l'ivraie et qu'on le jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre entendent. Je crois que Jean nous force ce matin à nous rappeler, l'Église, ce n'est pas un club auquel j'adhère. C'est sympa d'être dans un club de volley ou de natation. Ce n'est pas un club auquel je choisis d'adhérer. Rejoindre l'Église de Jésus, c'est une question, les amis, de vie ou de mort. Et alors qu'on va célébrer la naissance de celui qui est venu apporter la vie, combien c'est important de se le rappeler. Faire partie d'une église, de l'église avec un grand E, C'est une question de vie ou de mort. Et seul Dieu peut y ajouter. Seul Dieu peut y ajouter. Aucun pasteur, aucun diacre, aucun responsable, même pas ton conjoint, ne peut ajouter à l'Église. Seul Dieu peut le faire en te plaçant en Jésus-Christ. Amen. Seul Dieu peut le faire. Alors, on aura un temps de prière à la fin. Ne restons pas à côté de la source. Si vous avez mis un pied dans une église, allez à Jésus. Allez à Jésus. Venir à l'église, ça ne suffit pas. Observer ce que vivent les autres, ça ne suffit pas. Ce qui est important, c'est que Jésus te sauve et change ta vie. Et on arrive au point 2 et au verset que j'ai partagé tout à l'heure. Le Fils donne la vie à qui il veut. Mais c'est moi qui ai choisi le Seigneur. Le Fils donne la vie à qui il veut. Car comme le Père ressuscite les morts, verset 21, et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Nous sommes ici face au verset clé du chapitre, je pense. Celui qui donne la vie, c'est Dieu. Et face à la vie éternelle, Jésus ne nous considère pas juste comme malades ou paralysés. Dieu nous considère comme morts. C'est pour ça qu'il est dit, le Père ressuscite les morts. Il y a d'autres versets, bien sûr, qui appuient cela. Et alors que l'ensemble de l'humanité se dirige vers cette mort, cette condamnation éternelle, Dieu, par Jésus, donne la vie et sauve. Amen. Qu'est-ce que cela signifie que le Fils donne la vie? Eh bien, c'est bien de se rappeler que Jésus n'a pas laissé le ciel prenant une forme d'homme. Il n'est pas venu être humilié, souffrir et mourir sur cette croix pour nous apporter une boîte de pansements. Il n'est pas venu faire ça parce que nous étions malades ou paralysés, etc. Il n'est pas venu apporter un petit quelque chose qui va nous faire nous sentir mieux. Non, le paralysé s'est levé. Il a été complètement guéri. Il a pris son lit sous son bras et il a marché, s'emboîté. Et Jésus lui a dit, « Voici, tu as été guéri. Va, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Jésus change tout dans notre vie. C'est bon de se le rappeler. Jésus change tout dans notre vie. Il nous appelle à marcher dans un monde nouveau, avec une nouvelle façon de penser, avec de nouveaux repères. Tout change dans notre vie quand nous venons à lui. Rappelons-nous la Samaritaine. Elle voulait être sûre de bien comprendre l'ampleur du changement que Jésus allait lui apporter. Parce que tout change quand on vient à Christ. Et dans cette nouvelle vie, c'est lui le maître, c'est plus moi. Dans cette nouvelle vie, c'est lui qui commande et moi j'obéis. Dans cette nouvelle vie, je prie et demande au Père ce que je dois faire, ce que je dois accomplir. Verset 19 dans le chapitre 5. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Waouh, quel modèle! Dans cette nouvelle vie, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Verset 30. Dans cette nouvelle vie, je joins à la fois tous mes efforts pour sortir et éviter le péché. Va et ne pêche plus. Dans cette nouvelle vie, versets 22 et 23, j'honore Dieu, j'honore le Père, le Fils, l'Esprit. Cette vie me conduit dans la vie éternelle. Et elle ne m'est pas due. Dieu ne me devait rien. Je ne peux pas l'exiger. Parfois, on a cette revendication dans le monde ou même au sein du peuple de Dieu. Dieu doit le salut à tous. Ben non. Ici, Jésus nous dit qu'il donne la vie à qui il veut. Cette nouvelle vie, elle m'est offerte gratuitement. Et Jésus la donne. On ne lui arrache pas de la main. Et le seul moyen de l'obtenir, c'est de se mettre à genoux dans notre cœur et de la lui demander. C'est le seul moyen, frères et sœurs. C'est calme aujourd'hui. Dernier point. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Est-ce que vous connaissez des personnes qui seraient capables de dire ça? Mais moi, je ne veux pas venir à Jésus. Même le peuple hébreu qui a été éduqué et préparé pour accueillir celui qui donne la vie ne veut pas venir à Jésus. En Romains 3, au verset 11, il nous est dit « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. » Ça reprend un psaume. Naturellement, l'humanité ne cherche pas Dieu et ne veut pas de Jésus et de la vie qu'il donne. Pourquoi ? Ben parce qu'il faut un miracle. Parce que le péché, il a fait son œuvre. Il a éloigné l'homme de son Dieu. Et il faut un miracle. Romains 9, verset 16. Ainsi donc la question du salut, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Ça ne sert à rien de s'agiter dans tous les sens, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Rappelons-nous Bethesda, la maison de la miséricorde. Il ne suffit pas d'être dans la maison. Il faut que le Dieu de miséricorde me fasse miséricorde. Et pour cela, il faut que je plie les genoux devant lui et que je le lui demande. L'opposition au Fils de Dieu est quelque chose de naturel. Pourquoi sommes-nous tant surpris quand nous évangélisons? C'est naturel. Les gens s'opposent au Fils. Il est la pierre d'achoppement, le rocher de scandale. 1 Pierre 2, verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ne soyons pas surpris. mais au contraire, cela devrait nous aider dans l'évangélisation. Cela doit nous aider à plier le genou devant Dieu et lui demander un miracle. Un souffle de l'esprit si puissant qu'une nouvelle naissance peut se mettre en place. Une résurrection est alors opérée. Et les personnes avec qui nous parlons ouvrent leurs yeux, entendent de leurs oreilles et de l'état de paralysés, d'englués dans leurs péchés, ils se mettent à marcher en direction de celui qui donne la vie. Ils s'approchent de Jésus et ils passent de la mort à la vie. Je finis par deux citations qui devraient finir de vous motiver d'être là le 14, d'un certain monsieur qui s'appelle Charles Spurgeon. Chaque chrétien est soit un missionnaire, soit un imposteur. Oups! Je commente pas, c'est pas moi. Je dis juste qu'il a été qualifié le prince des prédicateurs. Donc, je pense qu'il a un peu étudié la Bible. Chaque chrétien est soit un missionnaire, soit un imposteur. Ça nous fait que ça nous fasse réfléchir, en tout cas. Et puis, il y a une puissance dans l'Évangile qui est au-delà de toute description. Amen. Quand nous annonçons Jésus, la puissance de résurrection est là. Et nous pouvons voir les malades guéris, les boiteux marcher, et ceux à qui on parle être sauvés. Amen. On va finir avec un temps de prière. Peut-être je peux demander à l'équipe de louange de revenir. Si certains parmi nous ont l'impression d'être juste des spectateurs dans l'Église, s'ils ont l'impression d'être à côté et de regarder, peut-être que c'est le jour aujourd'hui. C'est le jour où dans ton cœur, tu peux te mettre à genoux face à Jésus et le supplier de venir te guérir et de te sauver. Même si ça fait des années que tu es comme cela, 38 ans cet homme, 38 ans, et Jésus l'a guéri. Peut-être que tu n'as pas encore fait cette prière dans ton cœur. Seigneur, viens me sauver et viens me donner la vie. Ce matin, tu peux le faire. Parce que Jésus est là. Et il donne la vie à qui il veut. Alors tu peux le supplier ce matin. Et enfin, si tu n'as pas une compassion dévorante, brûlante pour ceux qui se perdent et qui seront jugés et qui vont aller dans le feu éternel, ben tu peux la demander aujourd'hui. Tu peux la demander et passer de l'état d'imposteur à l'état de missionnaire. Parce que tu crois que le message de Christ est vrai.